Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement et merci si vous êtes là depuis le début de l'émission. À suivre, Bruno Donnet pour ses télescopages. Notre invité sera le chanteur Axel Bauer, chanteur, compositeur, guitariste. On parle de son nouvel album Radio Londres. Et Lisa Marie Marquez va nous dresser son portrait pré-fame, tout ce qui est arrivé à notre célébrité avant sa célébrité. Et Marc-Antoine Lebray nous rejoindra pour clore l'émission. Bonjour Olivier Benkemoun.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Laurent Mariotte.
Bonjour Philippe Vandel.
Et je salue également Bruno Donnet.
Bonjour. Bonjour Philippe.
Tous les jours, Bruno, vous observez ici les grands rendez-vous médiatiques. Demain soir, on l'a dit, France 2 va diffuser en direct la finale du concours de l'Eurovision, mais pas besoin d'attendre jusque-là pour connaître le nom du vainqueur, car ce matin, vous êtes venu avec un scoop.
Oui, je suis venu divulgâcher le suspense, Philippe. Ah. La chanson qui va gagner demain le grand concours de l'Eurovision, c'est celle-ci. Le groupe s'appelle Kadouche Orchestra. Il s'est qualifié mardi soir lors de la demi-finale du concours qui se tenait en Italie, et en dépit d'une performance, comment dire, un peu surprenante. Kadouche Orchestra est bien le groupe qui a le plus la cote chez les bookmakers. Les organismes chargés d'enregistrer les paris lui donnent en effet 42% de chances de remporter la compète, loin devant le duo qui représentera l'Italie qui enregistre 14% de confiance et l'ambassadeur de la Suède seulement 10%. J'ai pas trouvé les Français dans ce classement. Alors pourquoi ce groupe qui interprétera une ode à toutes les mères de famille et qui a pour titre Stefania? Pourquoi ce groupe, disais-je, s'apprête-t-il à remporter la 66e édition de l'Eurovision? Eh bien, tout simplement parce que cette bande de valeureux artistes représentera l'Ukraine. L'Ukraine qui est martyrisée par la Russie, qui a pour sa part été exclue de la compétition. Depuis maintenant 78 jours, l'Ukraine qui bénéficie donc d'une cote de sympathie absolument sans précédent dans toute l'Europe. Alors les paroles de cette chanson disent « Je retrouverai toujours mon chemin vers la maison, même si les routes sont détruites ». Et pourtant, elles ont été écrites avant la guerre. Bon, il faut aussi que je vous dise, Philippe, que pour pouvoir concourir, pour être autorisé à sortir de leur pays, eh bien les membres du groupe ont bénéficié d'une dérogation spéciale du gouvernement ukrainien, puisque vous savez que tous les hommes en âge de se battre ont désormais l'interdiction formelle de quitter le territoire. Alors le pays de Volodymyr Zelensky a déjà remporté deux fois le concours de l'Eurovision, c'était en 2004 et en 2016. L'année dernière, un peu plus de 183 millions de téléspectateurs avaient regardé le concours. Et Oleg, le chanteur du groupe, a déclaré mardi que si l'Ukraine remportait la compétition, eh bien ça donnerait un coup de fouet au moral de tous ses compatriotes. C'est bien évidemment tout le mal qu'on leur souhaite. Néanmoins, Philippe, j'ai personnellement un petit regret. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a tout juste un mois, une petite fille de 7 ans, prénommée Amélia, avait ému le monde entier en entonnant l'hymne ukrainien sur la scène d'un théâtre de la Pologne voisine où elle avait trouvé refuge. Eh bien, je pense que la jeune Amélia aurait eu encore plus de chances de remporter l'Eurovision et de faire l'unanimité absolue. Mais c'est pas grave, Philippe, il reste tout de même à l'Ukraine une possibilité de rattraper cet impair, car un concours de l'Eurovision Junior existe désormais et il aura lieu le 11 décembre prochain en Arménie.
Merci beaucoup Bruno Donnet, à lundi. Je me tourne vers vous Olivier Benkemoun, le programme de votre indispensable ce matin aux alentours de 10h30.
Je ne vais pas chanter, mais on parlera de l'inimitable, de l'incroyable Claude Lelouch. Claude Lelouch, c'est un réalisateur que vous détestez peut-être, que vous aimez peut-être, mais en tout cas qui a une méthode de travail à part. Et pendant 7 ans, un réalisateur l'a suivi. Vous allez rentrer presque dans la tête de Claude Lelouch, en tout cas dans son travail, et c'est passionnant.
7 ans, c'est autre chose que l'agneau de 7 heures. Laurent Mariotte, votre programme du
c'est
jour,
très
justement.
Bon, l'agneau de 7 heures.
Vous avez vu le lancement un peu,
enfin, les transitions,
mais
c'est tout un art.
C'est Bruno Donnet qui adore les transitions.
question. C'est, je l'ai fait pour lui.
Avec
je l'ai fait pour lui.
Julien Arnaud, apparemment.
Exactement. Julien Arnaud qu'on salue, le champion de la transition.
Oui, qui, alors, oui, qui aime beaucoup ça. On va parler de la new wave gastronomique. Dans la cuisine anglaise, il se passe pas mal de choses. Hein. C'est fini, la panse de brebis farcie et puis l'agneau à la menthe. Il y a de belles cuisines, il y a de belles recettes. Oui, oui, non, mais elle est très audacieuse, très ludique et très joueuse, la cuisine anglaise. On va en parler.
D'une certaine manière, on va partir à Londres. Le nouvel album d'Axel Bauer s'appelle Radio Londres. J'ai toujours peur que ce soit ici Londres, c'est Radio Londres. Et on va écouter un premier titre issu de cet album, c'est L'homme qui court sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel. 9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Axel Bauer.
Bonjour Philippe.
Chanteur, auteur, compositeur, guitariste, on vient de vous entendre dans le solo. On cite évidemment le tube Cosmic, Cargo de nuit, écrit, composé, joué, chanté par vous à seulement 22 ans, mais également Éteint la lumière ou le duo avec Zazie à ma place. Vous n'aviez plus sorti d'album depuis 8 ans et votre actu, c'est ce nouvel album Radio Londres, seulement le 7e en près de 40 ans de carrière. On vient d'entendre le titre L'homme qui court. Le Figaro, au début du mois, a écrit « Le chanteur guitariste, c'est vous ». Sort le meilleur album d'un parcours amorcé il y a près de 40 ans. Alors d'abord, le titre de l'album, il s'appelle Radio Londres, mais il y a une chanson qui s'appelle Ici Londres. C'est une phrase de votre père, une phrase que votre père, Frank Bauer, a beaucoup prononcée. Il l'a prononcée combien de fois ?
517.
517 fois. Pourquoi ? Racontez.
Il était, quand la Seconde Guerre mondiale a commencé, quand les Allemands sont rentrés en France, il est parti à Bordeaux, il a pris un bateau. Et qu'il a amené en Angleterre. Et là, il s'est engagé dans les forces de la France libre. Il est devenu d'abord espion. Et ensuite, il a été engagé à la radio, à Radio Londres. Donc, la radio qui émettait depuis Londres vers la France occupée. Donc, la radio de l'espoir, la radio de la liberté.
Et c'est lui.
C'est lui qui disait, donc, les Français parlent aux Français.
Et qui délivrait ces messages cryptés à la résistance. On a le son d'époque de votre papa.
Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone.
Évidemment, c'était des messages codés. Il vous en parlait beaucoup de cette période de sa vie quand vous étiez enfant ?
Quand j'étais enfant, pas du tout, parce qu'il il avait un autre métier. Il était relations publiques et puis il était dans la vie active. Donc, la guerre était derrière. Je pense que les gens qui ont vécu, ses amis en tout cas, que je connaissais, qui avaient vécu la guerre, étaient des gens qui vivaient extrêmement dans le présent, sans trop se soucier du lendemain. Sans doute, c'est cette psychologie dans laquelle ils ont été façonnés, dans un monde où on vit dans le blitz. Hein, on peut être bombardé du jour au lendemain, on peut perdre la vie. Donc, mon père vivait extrêmement dans le présent, donc il s'occupait très peu du passé, donc il en parlait très peu. Sauf qu'à un moment, il est devenu le dernier survivant des speakers de Radio Londres, parce qu'il n'était pas le seul, et là, il a commencé à en parler.
Ici Londres, c'est également la première chanson du CD. On écoute le démarrage, parce qu'on y entend aussi la voix de votre papa.
C'était Jacques Huchet, c'était Jean Marin, c'était Jean Berlet, c'était Jacques Brugius, c'était Pierre Bourdon, très important. Les plus importants, c'était Maurice Schumann.
L'archevêque, le Vatican doit faire avec, et la Valkyrie nous tamponne, si l'on en croit Radio London.
Vous êtes content des paroles, je vois votre sourire, Axel Bauer, ça vous plaît, elles ne sont pas de vous, c'est Boris Bergman, le parolier illustre de Bachoum, entre autres, qui les a écrites. Quelle phrase vous faisait marrer ?
Et la Valkyrie nous tamponne, parce que la Valkyrie c'est Wagner, mais c'est aussi
c'est
Pierre Laval,
le collabo, qui était nous tamponne, Vichy avec Pétain, et qui nous met des tampons. Chanson écrite avant l'invasion russe, je le dis parce que dans la chanson vous chantez, vous dites « En d'autres temps on était plus résistants ».
Oui, c'est une affirmation qui est en même temps une question. C'est vraiment la question que je me posais quand j'écoutais mon père me raconter. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il a réenregistré Les Français parlent au français. Là, c'est lui, mais à 93 ans. Mm-hmm. Il me racontait ces épreuves terribles qu'il avait dû vivre pendant la guerre. Et je me demandais si moi-même, j'aurais été à la hauteur. Et en discutant avec Boris, qui a écrit ce texte, il a écrit cette phrase « En d'autres temps, on n'était plus résistant ».
Épreuve que vous avez vécue, vous en parlez dans la chanson « C'est malin ». Au début, ça commence comme une chanson normale, et puis on écoute les paroles et on comprend que le mot « malin » a plusieurs sens, un peu comme une tumeur maligne. Extrait.
La nouvelle est tombée ce matin. Le froid gagne encore du terrain. J'aurais pu l'éviter. C'est malin. La nouvelle est tombée ce matin et les larmes ont coulé sur nos mains. Et ce corps étranger, c'est malin.
Alors on va le dire, en 2017, les médecins vous diagnostiquent une tumeur au rein. Vous en êtes sorti, pas de chimio, opération réussie, tout va bien.
Oui, tout va bien, oui. Oui, suite à ça, j'étais en train d'écrire cet album et il y a cette chanson qui est arrivée d'un coup, comme ça. Quelque chose que je voulais transmettre peut-être sur la violence de ce moment où on vous apprend la nouvelle. Et bizarrement, effectivement, on revoit un peu son passé et on se dit « j'aurais pu l'éviter, c'est malin ».
Je me suis dit, je vais lui demander comment il aurait pu l'éviter, parce qu'il y a plein de gens qui nous écoutent.
Non, je pense qu'on ne peut pas l'éviter.
Ah bon, mais... Non, parce que ce n'est pas comme le cancer du poumon, on se dit « j'aurais pas dû cloper ».
Je pense que pareil, c'est le cancer, c'est peut-être aussi le résultat. Mais on ne sait pas d'où vient le cancer, donc on n'a pas le... Donc, en tout cas, moi, je me suis dit, j'aurais pu l'éviter. Peut-être.
Et vous avez des bons gènes quand même. Votre papa, il est mort à quel âge ?
J'ai des bons gènes et il est mort à quasiment 100 ans. Et puis, moi, j'étais sauvé par la prévention aussi. Mmh. C'est-à-dire que j'étais fait un scan et c'est ça qui a décelé la tumeur et qui m'a sauvé.
Oui. Merci la Sécu. Comment était Axel Bauer quand il était petit ? Je n'en sais rien. C'est pour ça que je suis ravi d'accueillir dans quelques instants Lisa Marie Marquez. C'est le portrait pré-fame de notre invité. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du chanteur et guitariste Axel Bauer. On parle de son nouvel album, il s'appelle Radio Londres. Et on va mieux vous connaître, Axel, avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité.
Bonjour Philippe, bonjour Axel
Bauer.
Bonjour
Lisa Marie, bonjour. Je vais oublier de vous saluer dans ma hâte d'entendre votre texte.
C'est ça. Axel Bauer, vous avez vendu des millions de disques, vous êtes l'un des meilleurs guitaristes français, une des icônes du rock. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Axel Bauer, vous êtes né et vous avez grandi à Paris. Axel Ulrich Adolf Bauer, c'est votre nom complet. Et je précise qu'Adolf, c'est votre arrière-grand-père, l'inventeur du pavé de verre, c'est bien ça ?
Oui, c'est tout à fait exact. Mais Adolf, c'était un prénom c'est un prénom difficile à porter. Il y en a même un film, en fait. C'est mon troisième prénom, je ne m'en vante pas. J'ai même demandé à mon père, comment toi, qui est un résistant avéré, t'as appelé ton fils Adolf ?
Ah oui, parce que c'était même après que je suis bête. C'était après la guerre, évidemment. Oui, vous n'êtes pas né avant 44 que je suis...
Alors, il m'a dit, c'est la tradition. On donnait le nom du grand-père. Et puis, bon, le grand-père... On était contents, le pavé de verre, c'est ces espèces de murs de verre qu'on voyait. C'est comme ça.
Quelle famille !
Dès votre plus tendre enfance, Axel Bauer, vous vivez dans un environnement musical. Grand-père musicien, tante concertiste classique de renommée internationale, Evelyne Crochet, et enfin, votre père, grand passionné de musique, qui a joué pendant la guerre avec Django Reinhardt. Et il paraît qu'il ne manquait jamais de ramener des collègues à la maison. Il paraît même qu'Oscar Peterson, le pianiste de jazz, vous prenait sur ses genoux pour jouer.
C'est pas vrai.
Oui, ça c'est. Je m'en rappelle, c'est peut-être quelque chose qui m'a même transformé. Il m'a pris sur ses genoux et il a joué sur le piano familial un blues et j'entendais ce Oscar, il grognait, vous savez, comme ça quand il jouait. Et je me rappelle de ça, j'ai un souvenir de ça, je devais avoir 5-6 ans. Et c'était cette vibration soul du blues, je pense qu'il me l'a communiqué peut-être.
Extraordinaire.
Vous êtes un enfant sage, Axel Bauer, et avant la musique, votre première passion, c'est le dessin. Vous êtes capable de remplir une page entière de cahiers avec des personnages minuscules, des dessins si petits que pour en voir les détails, il faut une loupe. Et vous vous êtes même, je crois, abîmé les yeux à coller votre visage sur la feuille pour dessiner.
Ouais. Ah c'est vrai que j'ai fait des centaines de dessins en fait. J'étais plutôt un dessinateur qui écoutait de la musique plutôt qu'un musicien au début. Et je dessinais extrêmement petit. Je remplissais comme ça sur une feuille A4. Je mettais 500 personnages qu'il fallait regarder à la loupe, comme vous l'avez très bien dit. Et effectivement, je me suis abîmé les yeux parce que longtemps après, quand j'étais musicien, je continuais à dessiner parce que on me poussait à ça, on me poussait à faire les beaux-arts. D'ailleurs, j'ai passé le concours, mais la musique était tellement puissante chez moi que j'y ai pas été. Mais un an après Cargo, j'ai commencé à avoir des migraines terribles et j'ai dû avoir une greffe de cornée à l'œil droit parce que j'avais un kératocone. Et le résultat de ces années de dessin.
Et vous dessinez toujours ou cela vous a refroidi?
Ben non, parce que j'ai pas perdu la vue du fait du kératocone, mais j'ai quand même perdu beaucoup d'acuité visuelle. Et comme je dessinais de façon très très minutieuse,
vous c'est petit ou rien.
Ouais, et puis
Lisa Marie.
Axel Bauer, après la séparation de vos parents, vous êtes envoyé dans un pensionnat, une pension de garçon semi-religieuse, jusqu'à ce que vous vous fassiez renvoyer pour une grosse bêtise, une histoire de trafic d'herbes de Provence.
Voilà.
Elle sort les dossiers.
Oui, il y a du dossier. Oui, j'étais à Saint-Martin-de-France, à Pontoise.
Ouais, c'était de l'herbe et pas seulement de Provence, c'est ça?
En fait, j'ai dealé un peu d'herbe. Oui, ouais. C'est vrai. Mélangé. Avec beaucoup d'herbes de Provence. Et quand je me suis fait piquer, je faisais ça pour m'acheter une guitare, en fait. Donc,
d'accord.
Et quand je me suis fait piquer avec uniquement de l'herbe de Provence. Et le proviseur voulait appeler les flics. Et donc, je lui ai dit, allez-y, on va faire des analyses.
Voilà. Et donc, heureusement, ça a été du thym et du romarin. Ouais. Lisa Marie.
Et justement, la guitare, vous l'avez apprise tout seul à l'adolescence. Vous montez un groupe avec des copains d'école, les Nightbirds. Après le bac, vous suivez vos premiers amours pour le dessin et vous intégrez les beaux-arts. Mais la musique l'emporte assez vite sur le crayon. Vous fréquentez les clubs rock comme le Rose Bonbon, célèbre club parisien des années 80. Puis vous vivez une époque baroudeur. Vous partez en Afrique, au Sénégal, accompagné de votre guitare, une guitare Les Paul que vous allez échanger là-bas avec celle d'un guitariste africain.
Oui, c'est une belle histoire parce que je partais en Afrique avec cette magnifique Les Paul que je venais d'acheter, qui était flambant neuve et qui était une guitare fabuleuse. Je remplace un guitariste dans un orchestre et il me montre les morceaux avec sa Stratocaster et à la fin on se regarde et on lui dit on échange.
Dingue.
Et je lui passe cette splendide Les Paul dans une boîte et puis lui me donne sa guitare dans des sacs en plastique. Alors j'avais l'impression d'avoir fait une très mauvaise affaire, mais cette guitare m'accompagne jusqu'à aujourd'hui.
Ah, vous l'avez encore, Cargo. La Strato, dingue.
Oui, bien sûr, Éteint la lumière, j'ai composé... Elle m'a inspiré des chansons.
Ah oui, de retour en France, vous composez un morceau avant d'y ajouter des paroles à l'aide de Michel Elie, parolier et patron de label. Ce morceau, c'est Cargo, et il va marquer, Axel Bauer, le début de votre grande aventure musicale avec le public. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là.
Merci.
Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Merci des anecdotes. Merci. Je vous souhaite un bon week-end, Lisa Marie Marquez. On va parler gastronomie tout à l'heure avec Laurent Mariotte. Et nous, on vous retrouve au Grand Palais Éphémère pour le festival gastronomique Taste of Paris. C'est
et
bien
oui,
ça?
C'est la 7e édition jusqu'à dimanche soir.
Et vous allez y faire quoi?
Et je vais animer tous les cours de cuisine à côté des chefs.
Si vous allez voir Lisa Marie Marquez, son portrait pompe après fame, mais véritablement fame, ça sera ce week-end. Axel Bauer, vous restez avec nous. On va parler d'un doc consacré à Claude Lelouch. Olivier Benkemoun arrive dans ce studio. À tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie d'Axel Bauer, c'est son nouvel album. Il s'appelle Radio Londres. Attention, le premier titre s'appelle Ici Londres. Le titre qu'on a entendu, le single, c'est comme ça qu'on dit, il s'appelle L'homme qui court. Et je voulais qu'on entende mon titre préféré de l'album, ça s'appelle Achète-moi une âme.
Achète-moi une âme.
Il y a un peu des accents à la Bachung, je trouve, dans ce titre. C'est riche, ah,
c'est
aussi
pas voulu,
bien
même
les
si j'adore
textes.
Alain.
Je veux dire par là que c'est pas basique, musicalement, harmoniquement, même rythmiquement. Et puis dans les textes, il y a des profondeurs, il y a des strates. Ça me plaît beaucoup, ça me touche beaucoup.
Il y a un très beau texte de Pierre-Yves Lebert aussi. Je le cite parce qu'il a collaboré à cet album et j'aime beaucoup ce qu'il écrit aussi.
Je parlais de Bachung, la première chanson était signée Boris Bergman. Il y a aussi une reprise de Moncey, à qui n'a pas aimé. Pourquoi lui ? C'est un type peu connu dans le milieu qui a fait 22 albums ou 23 dans la plus grande discrétion. Ça marche toujours. Aucune promo, c'est... aucun clip, aucune pub. Et il est toujours là, Moncey.
Aucun concert.
C'est extraordinaire. Pas de photo, dingue.
Mais c'est un personnage, en fait. Je l'ai rencontré il y a une petite dizaine d'années. J'ai même collaboré avec lui sur un album, on a fait un duo. Et souvent, on a des conversations sur la production avec Moncey, c'est-à-dire l'agencement des sons et tout ça. Et ça, à qui n'a pas aimé, c'était une maquette au départ que j'avais fait pour lui dire j'adore ce titre, mais je le vois autrement. Et en fait, c'est moi qui l'ai fait.
Et il t'a dit vas-y.
Il a trouvé ça super d'ailleurs.
Voilà, et pour situer Moncey et pour boucler la boucle de ce que je disais avec Bachung, le tout dernier concert qu'Alain Bachung a donné, la dernière fois qu'il a chanté en public, il a fait une reprise de Comme un Lego, la chanson de 9 minutes.
Mais d'ailleurs,
de
sur son dernier album, Alain, je crois qu'il y a 4 titres de Moncey.
Exactement, donc Comme un Lego. Tout à fait autre chose, on va parler de cinéma, pas tout à fait. On va parler de documentaire, on va raconter la vie de quelqu'un. Olivier Benkemoun, rebonjour. Votre indispensable, c'est un doc qui sort en salle, ça s'appelle Tournée pour vivre, documentaire consacré à l'immense cinéaste Claude Lelouch.
Non, et vous savez quel jour on est ?
Dites-le.
Vendredi 13.
Ah oui ?
On est
le jour
de la sortie de mon album.
Exactement. Voilà. Et 13, c'est le numéro porte-bonheur de Claude Lelouch. Ouais. Sa société de production s'appelle Les Films 13. Sa salle de projection se trouve, ses bureaux, c'est le Club 13. L'un de ses bateaux s'est appelé Vendredi 13. S'il peut faire sortir ses films un Vendredi 13, il le fait. Son nom compte 13 lettres. Même son numéro de téléphone se termine par 13. Et je vais vous le donner. Non, je ne vais pas vous le donner. Mmh. Et vous savez de combien de films il a réalisé ?
Plus de 13.
Ouais, bien.
73.
Un multiple de 13.
45. Mais il n'y a pas de hasard. Enfin, il n'y a pas de hasard. Si, justement, Claude Lelouch est le réalisateur qui laisse entrer le hasard dans ses films. Le hasard de la vie, c'est plus qu'un figurant chez lui. C'est un premier rôle. Et puis, il y a aussi le hasard des rencontres, la chance. Et tout cela est montré dans ce documentaire hommage à un réalisateur français hors norme.
Face, c'est moi qui bute. Pile, c'est lui.
Le hasard a pris les bonnes décisions que moi, je n'étais pas capable de prendre.
Mais tu as une chance, toi, mais c'est hallucinant!
Elle a raison, Sandrine Bonner. Tu as une chance. On l'a entendu dans un moment capté sur le tournage de Salaud, on t'aime. Le réalisateur Philippe Azoulay, il a tourné des images pendant 7 ans.
Ah, dis donc.
7 années de tournage. C'était pas prévu au départ, mais ça s'est fait comme ça. En tout cas, il y a de la matière, vous avez compris. Même si vous détestez Claude Lelouch, ou en tout cas si vous aimez un tout petit peu le cinéma, c'est absolument passionnant.
Vous pensez à une certaine partie de la critique française qui déteste Lelouch.
Mais il a pris des tôles, il le reconnaît d'ailleurs dans film. Et il remonte, et comme il est indépendant, il fait ce qu'il veut. Le foisonnement d'idées, les projets, la stimulation intellectuelle sans arrêt, ça phosphore, ça avance. Il est dans l'action, il a 84 ans. Et encore une fois, le hasard a sa place.
Des fois, je sais même pas où je vais, mais j'y vais quand même.
Comment vous avez pu savoir ce qu'on va faire demain ? Parce que Claude, lui, il ne le sait pas.
Il a tout changé. Le dialogue n'existe plus. C'est d'autres dialogues.
Il y a du danger sous contrôle, je sais pas comment dire.
Clac, 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 clac. Je crois à l'incroyable fertilité du chaos.
L'incroyable fertilité du chaos. Ça pourrait être le titre d'une chanson. Hein. Ça se traduit en tout cas par une manière unique de mettre en valeur ses comédiens, les choyer pour essayer de les avoir au plus naturel, comme une prise de live en quelque sorte, sans leur donner le scénario, seulement des indications. Écrire sur mesure tous les jours, tous les soirs, reprendre son histoire en fonction de la météo, de l'humeur, de la couleur du ciel. Il aime les comédiens, mais il faut dire aussi qu'il aime les bousculer. C'est ce qu'il explique notamment à des élèves dans l'école de cinéma qu'il a montée.
Au cinéma, c'est one shot. On peut faire ce qu'on veut. On peut aller chercher l'émotion à tout moment. Déstabiliser constamment les comédiens.
Les comédiens, il faut les déstabiliser. Et quant à lui... il est parfois déstabilisé, mais il fait face, même quand les éléments sont hostiles. Par exemple, sur le tournage de Salut, on t'aime, il y avait un aigle royal américain qui a une place centrale dans une scène. Vous savez ce qu'a fait l'aigle ?
Non, il a fait ce qu'il a voulu. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il a fait ce qu'il veut.
Il s'est tiré.
Non !
Il s'est tiré, il est parti.
Au prix où c'est ?
Et voilà, et là, l'angoisse absolue.
Juste un aigle américain.
Oh yeah !
C'est les aigles américains. Il doit parler anglais, sûrement.
Surtout, il faut qu'on retrouve l'aigle. Hein.
C'est un gros coup dur. Hein.
La contrainte sollicitant l'imagination, je m'adapte. Voilà, je suis un metteur en scène qui s'adapte. Voilà, le seul truc auquel je ne pourrais pas m'adapter, c'est la mort, à mon avis. Mais en dehors du reste, je dois pouvoir y arriver.
Il s'adapte, mais il a de la chance. Parce que l'aigle, Il est revenu.
Il avait la dalle.
L'aigle américain. Alors, il y a plein de petites séquences comme celle-là dans ce documentaire au casting. Jean Dujardin, Elsa Dilberstein, Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimé, Jean-Paul Belmondo, Jean Marais, Michel Piccoli, Catherine Deneuve, Jacques Villeray.
Des noms connus, sinon.
Oui. La prochaine fois. Des voyages, monsieur Vandel, à la montagne, en Inde, pour 1+1. Ça, c'était épique en Inde. L'Inde, c'est le chaos permanent. Ça lui a plu. Et puis, je vais terminer là-dessus.
Je crois que c'est un grand passionné de bagnole aussi.
Aussi.
En plus.
Ouais. Et puis de Johnny Hallyday. Il y avait Johnny Hallyday sur Salut on t'aime. Le réalisateur Philippe Azoulay, qui a encore une fois énormément tourné et capté de séquences, en a capté une. Il y a un moment où Johnny Hallyday raconte, comme ça, il est autour d'une table, répond à une question sur la foi. Et toi, tu crois en quelque chose, si tu crois en Dieu. Et il explique quelque chose que tout le monde ignore. Écoutez.
Quand j'étais petit, je devais faire mon catéchisme. Et dans les fonds de l'église, au sous-sol, le curé m'a mis la main au cul.
Non.
Et ouais, il a essayé d'abuser de moi. Et moi, ça m'a effrayé, ça m'a dégoûté. Et du coup, j'ai pas fait mon catéchisme.
Il a essayé d'abuser de toi ?
Ouais.
Un curé.
Ouais.
Tu étais tout jeune, quand t'avais.
Bah, j'avais 12 ans.
12 ans.
Ouais.
Non.
Ouais, et ça m'a bloqué après.
Voilà,
je m'étonne.
Bah oui. Le film s'étend pas du tout là-dessus. Hein. C'est pas du tout le propos du film. La séquence arrive comme ça, elle est très courte. Mais c'est quand même assez hallucinant d'entendre Johnny Hallyday témoigner comme ça. Bon, voilà, je voulais pas non plus insister beaucoup, mais il y a plein de petites choses, des secrets de tournage. Pour terminer, j'ai noté encore cette punchline de Claude Lelouch. J'ai tourné 45 films, ça a été 45 fois des vacances. C'est dans l'action que je suis heureux.
J'adore. Merci beaucoup Olivier Benkemoun. Comme vous êtes compositeur, Francis Lay pour la musique.
Et Pierre Barou pour les paroles.
Grand compositeur de films, Francis Lay. Oui.
Immense. Et aussi, il avait la main verte. C'est une autre histoire, on la racontera une autre fois. Parce
c'est
qu'on doit
pas
parler,
tant que c'est pas parler
de... Vous aimez bien la New Wave?
Bah bien sûr.
Votre groupe préféré?
Je crois New Order ou Depeche Mode.
On va parler justement de New Wave avec Laurent Mariotte. Si c'est possible. À tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
On est à l'antenne, on est avec Axel Bauer, son album s'appelle Radio Londres. Justement, à propos de Radio Londres, j'en parlais, la New Wave. Vous avez cité Depeche Mode, New Order, quel autre groupe?
Joy Division,
parce qu'on a parlé
Les Cures, mais on l'a pas cité.
Mais
quand même.
Tellement, on est avec Laurent Mariotte. Angel of Silence. Les équipes de Jérémy Hébert qui ont retrouvé ça dans leur vieux manche disque. Quel plaisir d'entendre ceci. Depeche Mode. On va parler de New Wave avec vous, Laurent Mariotte.
Étonnamment.
Mais, de la New Wave britannique. Mais, de la New Wave gastronomique. J'y crois même pas.
Bah si, effectivement, c'est l'entente franco-anglaise. Hein. C'est vrai que l'association Cuisine et Angleterre, c'est un petit peu comme le mariage de la carpe et du lapin. Dans la mémoire collective française, c'est pas que des bons souvenirs. On a tout de suite des clichés qui viennent.
Le bœuf bouilli,
la panse de brebis farcie, la jelly. Votre papa, tiens, Axel Bauer, Frank Bauer, quand il était à Londres, il vous a raconté des souvenirs de cuisine anglaise?
Oui, complètement. D'ailleurs, je vais vous raconter un souvenir. Quand il a débarqué à Liverpool, il y a eu une annonce qui a été faite comme ça, qui a dit les Français, de ressortissants français, doivent rejoindre les forces de la France libre du général de Gaulle. Et tout le monde s'est regardé, c'était tous des gamins, ils ont dit c'est qui le général de Gaulle? Ils n'avaient jamais entendu parler. Donc, comme la France avait perdu la guerre, ils voulaient tous aller s'engager chez les Anglais. Et il y en a un qui a dit à ce moment-là, oui, mais chez les Anglais, la bouffe est dégueulasse. Donc, c'est pas pour des raisons... c'est pas
historique,
pour des raisons
stratégiques, politiques,
de courage et d'héroïsme, si tu veux, qui sont devenus des héros. C'est pour la bouffe, parce qu'ils ont trouvé que la bouffe anglaise était mauvaise. Donc, ils sont engagés dans les forces de la France libre.
Parce que bouffer la cuisine anglaise de l'époque, il fallait parfois être un héros.
Ah bah oui.
Alors, qu'est-ce que vous nous amenez, Laurent Mariotte?
Non, mais on va parler de cette image, on va être honnête. Effectivement, historiquement, on vient de l'entendre avec Axel, l'Empire britannique n'a jamais voulu conquérir nos assiettes. Sous la reine Victoria, c'est une société puritaine, déjà avec un rejet des plaisirs de la table au 19e siècle. Et sous Churchill, on rentre dans l'ère de l'industrialisation du 20e siècle. C'est une industrie de guerre. Donc, c'est les conserves, c'est les produits transformés, c'est les plats préparés. C'est le corned beef, c'est les œufs en poudre, c'est le lait concentré, c'est tout ça. Non mais c'est vrai qu'on connaît aujourd'hui, et un des desserts typiques de la cuisine anglaise a été inventé pendant la Seconde Guerre mondiale. Si je vous dis crumble.
Eh ben, je dis oui.
Eh ben, c'est
Niam. Bon, ils en ont trouvé un. Hein.
Rationnement.
Je pensais que c'était américain. Pour
non,
tout
non,
vous dire.
C'est les Anglais. Rationnement des matières
cela
premières.
Cela dit, moi qui habitais à Londres, je me suis fait aussi un moment à la cuisine anglaise et finalement le truc était le plus dégueulasse, c'était le jelly.
Oui, bien sûr.
Et finalement, bon, quand on s'y habitue, c'est très bon. Le Stilton est un fromage
magnifique.
Délicieux.
On va en parler. Ouais. Ben, absolument. Et effectivement, le crumble, comme c'était le rationnement des matières premières, le beurre, la farine et le sucre pour faire une pâte à tarte, on n'en avait pas assez, donc on émiettait cette pâte par-dessus des fruits qu'on mettait au four. To crumble, ça veut dire émietter. Voilà.
Ah, j'ai appris quelque chose. Ah, ça, c'était avant, donc on y arrive.
Avant,
il
ça.
Existe, dites-vous, Laurent,
bien
une
sûr.
New Wave de la cuisine anglaise.
Vrai comeback dans les années 2000 avec trois noms, Jamie Oliver, Gordon Ramsay, Yotam Ottolenghi, trois garçons dans le vent d'une cuisine anglaise conviviale. Gordon Ramsay, on le connaît avec son émission Cauchemar en cuisine qui est adaptée dans le monde entier. C'est notre chef Philippe Etchebest en France qui a adapté son programme. Jamie Oliver, c'est plus de 40 millions de livres vendus à travers le monde. Ils ont un point commun, tous ces chefs, c'est le sens du dressage très coloré, des plats de partage comme ça qu'on pose sur la table, des légumes rôtis au four avec des sauces qui viennent napper ces légumes. On va utiliser la viande comme condiment, par exemple. Donc on est très loin des roast beef et de la jelly. Et Grégory Marchand, qui est un de nos chefs français, qui a fait ses classes auprès de Jamie Oliver en Angleterre, qui est le chef du Frenchie rue du Nil à Paris, a été interviewé il n'y a pas très longtemps par David Ordonneau pour sa série de podcast qui s'appelle Chef. Et il définit la cuisine anglaise ainsi. Il dit la cuisine anglaise, c'est comme un jardin à l'anglaise, foisonnante, un peu fouillie, harmonieuse et vivante, contrairement à la cuisine française, très codifiée et parfois un peu figée. Et c'est vrai, elle ose en fait la cuisine anglaise.
Alors où est-ce qu'on peut en goûter de la cuisine anglaise en France?
À Paris, à Clermont-Ferrand. Tiens,
ah oui.
Harry Lester,
ouais.
Chef anglais à Clermont-Ferrand, reprend la cuisine d'aubergiste à la française dans son restaurant Le Saint-Eutrope. Donc là, en ce moment, il a une soupe de petits pois à la menthe au menu. Mais c'est très, non, mais c'est très, très bon.
C'est
ça.
Très bon.
C'est
ouais.
Très bon la soupe. Faites-en une ce week-end, oui, vraiment,
sûr.
La soupe de petits pois.
Je me demandais
à la
quoi faire ce week-end.
Mais c'est facile, un
bah
bouillon
oui.
De légumes, vous faites cuire les petits pois dedans, vous mixez avec du fromage frais et un petit peu de menthe. Et entre deux tripous, justement, on en parlait avec Axel Bauer, il glisse du Stilton, ce fromage bleu britannique qui ressemble à de la fourme d'Ambert et qui est produit à l'est de Birmingham. Ça, c'est le chef Harry Lester. Et à Paris, une adresse de fish and chips.
Ah,
c'est
ah oui.
Un restaurant qui s'appelle L'Entente à Paris, dans le deuxième arrondissement. C'est le meilleur fish and chips de la capitale. Une panure très légère faite avec de la bière brune, de la levure et du curcuma. Un poisson de pêche durable, du lieu noir ou du merlu pour remplacer le cabillaud qui est menacé. C'est l'entente cordiale autour du fish and chips. C'est à Paris, ça. Voilà.
Et puis le breakfast anglais, c'est quand même le
ah
top,
oui.
Quoi. C'est avec le beans on toast, avec les sausages.
Ouais.
Ça, c'est vraiment.
Vous prenez des beans au petit-déj?
Moi, c'est le seul truc,
non,
c'est le seul
oh
truc que j'aimais pas.
Mais il est international, le breakfast anglais,
ouais,
absolument, parce qu'il est très protéiné. Mmh. Oui.
Les petits plats de Laurent Mariotte, c'est le numéro 4 qui sort mai-juin 3,95, je voulais le dire. C'est la belle saison, les amis. Le gars, il fait ses titres, en fait, il discute avec ses potes et ça devient le titre de couverture. Je vous le recommande, je l'offre à Axel Bauer. C'est la belle saison. Et les épices, osez-les bien doser.
Il y a de la rhubarbe que les Anglais adorent, effectivement. Et Cap au Nord, pas très loin, je vous emmène dans les Hauts-de-France.
J'adore vos titres. 60 recettes faciles qui dépotent.
Mais bien sûr,
c'est pour
saisons.
Axel Bauer. Deux saisons.
Allez,
demain, 11h à la table des bons vivants, Laurent.
On va parler du pouvoir d'achat, comment rémunérer nos agriculteurs au juste prix sans casser la tirelire. Et puis le chef marseillais, 3 étoiles, Gérald de Paceda, sera des nôtres. Voilà.
Merci beaucoup, Laurent Mariotte. Vous restez avec nous. C'est la dernière ligne droite de Culture Média. Axel Bauer est dans la place. Salut, à tout de suite.
9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Axel Bauer et son nouvel album, c'est le 7e seulement qui vient de sortir, ça s'appelle Radio Londres. On a parlé de votre père, je réalise qu'on n'a pas dit un mot de votre fils. Il était candidat dans l'émission The Voice, c'était la saison 10, s'appelle Jim. Passage très remarqué, parce qu'il a quand même osé reprendre Tata Yo-Yo d'Annie Cordy. Extrait.
Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton grand chat. Tata Yo-Yo, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton grand chapeau. Tata Yo-Yo, dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux.
Vous regardez l'émission, Axel Bauer?
Bah oui, comme tout bon papa, j'ai regardé l'émission.
Peut avoir peur pour lui.
Et puis j'avais peur pour lui, ouais. Ouais. Et puis voilà, il nous a tous bluffé avec son tata yo-yo, ouais.
Et vous lui donnez des conseils ou pas du tout? Ou au contraire, non, on n'a pas envie, quand on est un ado, on n'a pas envie d'écouter les conseils du papa?
Non, mais d'ailleurs, on ne parle pas vraiment...
De musique.
C'est difficile pour lui de se lancer et de s'émanciper de son nom. Donc,
bien sûr.
Donc on essaie de ne pas en parler. Voilà.
Voilà, il était le favori de la grande finale. Finalement, il a perdu en finale. Et vous avez remarqué que dans cette émission, c'est souvent le deuxième qui fait une grande carrière. Donc il a eu vraiment la chance. Deuxième, c'est la place du con, sauf dans The Voice, où c'est la place rêvée. Et puis, il y a eu, ou plutôt avant Jim, il y a eu Cargo.
Longtemps avant, quoi.
Ouais, longtemps avant. Pourquoi je veux entendre ce son? D'abord parce que j'adore ce son. Tout le monde adore ce son. Et puis, il n'y a pas un article sur vous qui ne cite pas ce titre. Vous aviez seulement 22 ans. Et vous dites parfois que ce tube, vous parlez parfois de ce tube comme de la poisse. Dans quel sens?
Ah non, enfin peut-être j'ai dit
Libération,
ça.
Libération, 26 mars 98.
Ah oui, j'imagine que vous êtes très, très documenté. Bah, c'est-à-dire que comme on m'en parle, il faut bien que je raconte des choses.
Oui, vous avez fait d'autres choses. C'est que vous n'êtes pas l'homme d'un seul tube.
Non, bah, comme tous les artistes, je crois, qui ont
Patrick
une carrière.
Hernandez, Patrick Hernandez, on peut citer que Born to be Alive. Ah, vous avez une autre carrière, donc c'est pas.
Oui, bien sûr.
C'est pas un titre qui doit vous peser normalement.
Non, ça me pèse pas du tout. Je pense que si c'était un titre que je n'aime pas encore aujourd'hui écouter, ça me pèserait. Mais en fait, c'est un titre très complexe, Cargo, harmoniquement. Donc, il est assez riche pour continuer à être écouté, je pense. Enfin, bon, c'est vrai que c'est une vraie transformation dans ma vie. Et donc, il y a des bons et des mauvais côtés.
Il y a un avant et un après.
Et le clip est un chef-d'œuvre.
10h55, signé Mondino. Non, c'est bien ça. 10h55, les stories de Marc-Antoine Lebray. Tous les jours, il y a des stars qui viennent pour notre invité. Et ce matin, Axel Bauer, quelqu'un que vous connaissez bien, vous avez des anecdotes ensemble, c'est Philippe Manœuvre. Bonjour.
Oui. Alors là, moi, j'ai une anecdote de folie sur Axel. Alors, c'était un concert à Val d'Isère. D'ailleurs, j'adore tellement la neige que j'ai une piste bleue dans le pif. Rock ! Là, mon Axel se prend un coup de jus à cause d'un ampli défectueux. Et ni une ni deux, j'ai écouté que mon courage et ma licorne sur l'épaule. Et j'ai shooté dans l'ampli. C'est vrai ou pas ?
C'est vrai. Ouais, c'est vraiment vrai, Philippe.
On vous a sauvé la vie. Merci.
Je l'ai toujours dit, Axel. T'as du Gilbert Bécaud en toi, monsieur 100 000 volts. Ça aurait été ballot de finir comme Claude François, monsieur 220. Mais je suis pas un héros. Il y a peu de temps, à Tahiti, j'ai vu Kinvé brancher son ampli les pieds dans l'eau. Et si ça avait pété, je sais pas si j'y serais allé. Je me serais dit, imagine qu'il nous fasse un nouvel album.
Merci Philippe. Quelqu'un qui vous a déjà écrit une chanson est ici, c'est Brigitte Fontaine.
Wow.
Elle a écrit un texte.
La chanson pour Axel s'appelle « Elle est SM ». SM, c'est sadomaso et tataclope dans mes naseaux. Fouette-moi les fesses au lasso et passe-moi un son de la Rousseau. Bonjour, c'est Nagui. Brigitte, je complète ce que vous dites. Axel, souviens-toi, on en avait parlé dans Taratata. Les paroles de la chanson « Éteins la lumière », elles sont quand même super chaudes. Et ça n'a pas loupé, dans N'oublie pas les paroles, un candidat a chanté « Éteins la lumière, montre-moi ton côté sombre ». Regarde mon ombre qui, elle, sait faire l'hélicoptère.
Coucou, bonjour, c'est Gilbert Montagnier. Pardon Nagui, mais tu parles de la chanson « Éteins la lumière ». Et cette chanson chantée par moi, ce serait carrément autobiographique. Hein. Allez, bonne journée Yves Calvi et j'embrasse tous les auditeurs d'RTL.
Europe 1, merci beaucoup Marc-Antoine Lebray. À lundi, merci. Des bises. On se retrouve donc lundi à 9h pour Culture Média. On sera avec Béatrice Dalle, la comédienne. Elle intervient dans un doc sur Iggy Pop. Doc signé Sophie Blondie, la réalisatrice qui sera aussi avec nous. On va parler de la saison 2, de la satire politique Parlement qui raconte l'Europe. On sera avec le créateur de la série Noé Debré et le comédien principal Xavier Lecaille et puis la chanteuse comédienne Louane. Non pas pour parler de musique, quoi qu'on va en parler évidemment, mais elle est dans la nouvelle série policière et paranormale de TF1. Ça s'appelle Vision.
Super
juste
série.
Après le Flash. Julia Vignali, Mélanie Gomez s'appelle Bien fait pour vous. Merci encore Axel Bauer.
Merci
à lundi,
Philippe.
Bon week-end sur Europe 1.